Voilà, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à l'espace André Chédid. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez tous cet espace, mais sinon vous avez la chance, je l'espère, de le découvrir. Et vous avez notre programmation. Alors, on est très heureux de vous accueillir ce soir pour cette soirée, cette lecture intitulée « Des maîtres très inspirants » avec Marjolaine Pijou. Merci beaucoup, Marjolaine, de nous avoir fait cette proposition avec Sarah Menahem, qui nous a contacté assez récemment. En fait, cette plaquette était vraiment en cours de finalisation et parfois on a de la chance, voilà, il y a un petit créneau et ça tombait très bien puisque vous nous sollicitiez au titre des nuits de la lecture qui ont pour thème cette année patrimoine au pluriel. Et il nous a semblé important pour un lieu qui essaie de promouvoir la poésie, la philosophie comme le nôtre, de concourir à mettre en avant le patrimoine littéraire et poétique qui nous est cher. Alors, voilà, je ne vais pas être très long, la soirée va durer environ, la lecture va durer environ une heure. Vous vous entretiendrez donc avec Anne-Claire de Poulpiquet. Merci beaucoup aussi d'avoir. D'être là pour cet événement. On est très heureux. Et puis ensuite, on aura un pot de l'amitié. Vous pourrez échanger avec les intervenants. Et on est très sensible parmi les auteurs que vous allez lire. J'ai vu qu'il y avait Charles et Juliet, qui est un auteur qu'on a reçu ici et qui compte beaucoup pour nous. Voilà, donc merci. Et ce que j'ai oublié de préciser, mais vous l'avez constaté, c'est que cette rencontre est un peu le point d'orgue de l'exposition « Ouvrir les failles que nous accueillons donc, depuis le 15 janvier et jusqu'à samedi. Voilà, très bonne soirée, à tout à l'heure. Merci.
Merci. Bonsoir Marjolaine.
Bonsoir.
Donc, c'est intéressant d'être vraiment dans cet espace d'une personne qui a beaucoup écrit sur l'existence, sur l'amour et qui a également exploré comme toi les livres d'artistes, puisqu'elle a eu des collaborations avec un artiste. Marjolaine, pour cette soirée, est-ce que ça a été assez déchirant de choisir uniquement 5 lectures, 5 œuvres, 5 auteurs? Est-ce véritablement ton panthéon d'un moment, d'une soirée, d'une période de vie? Est-ce toute ta vie qui est représentée dans ces lectures? Comment as-tu pu faire ce choix?
Non, ça a été un choix terriblement difficile et finalement que je trouve... il correspond aux échos à ces œuvres présentées ici. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'autres textes que j'aurais aimé lire. J'en ai mis quelques-uns là sur les escaliers qui sont certains que j'ai pas pu là mettre dans ce choix. Il y en aura 6 pour ce soir qui correspondent aux œuvres exposées et qui m'ont vraiment accompagnée dans la peinture.
Alors peut-être en introduction, je crois que tu as choisi de lire un extrait d'André Chédid pour introduire vraiment cette soirée.
On m'a offert ce livre et voilà, qui commence sur la quatrième de couverture, il y a ce texte d'André Chédid. Ne sommes-nous pas en premier lieu des créatures éminemment poétiques, venues on ne sait d'où, tendues vers quelle extrémité ? Pétri par le mystère d'un insaisissable destin, situé sur un parcours qui ne cesse de déboucher sur l'imaginaire, animé d'une existence qui nous maintient comme l'arbre entre terre et ciel, entre racine et création, mémoire et fiction. Voilà, pour parler sous cet arbre, c'était une belle introduction.
Alors, pénétrer dans la bibliothèque d'une artiste poète comme toi, le livre est important chez toi, ton œuvre est très poétique, je pense qu'on pourrait la caractériser ainsi. Est-ce qu'on peut dire que les textes ou la lecture t'ont vraiment formé, éclairé, façonné et c'est quelque chose qui est intrinsèquement lié à ton art? Pourrais-tu passer une journée sans lire?
Ça m'arrive de passer une journée sans lire. Mais quand mon fils aîné s'est mis à lire à 6 ans, je me suis dit, j'ai eu ce réflexe de me dire, il ne sera plus jamais seul. Enfin, c'est-à-dire, s'il vit des moments de solitude, il trouvera toujours dans les livres une réponse. Je crois que dans les livres, on se trouve des amis qui ont vécu 3 siècles avant, qu'on n'a jamais rencontrés, mais qui vont avoir une réponse pour nous, qui vont parfois nous dire le mot qu'on attend, qui vont parfois venir nous éclairer sur notre chemin. Et le livre, pour moi, voilà, c'est ça. Et puis alors, il y a des choses étonnantes avec les livres. Il y a... voilà, il y en a qui font écho, qui rentrent dans mon travail, soit de manière consciente, soit inconsciemment. Par exemple, ces peintures-là, qui sont les plus anciennes de l'exposition qu'on a juste posée là pour ce soir, qui date de 2008, qui s'appelle « Les ébranlements », qui parle de ces instants de faille, justement, qui parle de ces instants de brèche où quelque chose s'ouvre dans le quotidien et soit on referme pour vite reprendre son quotidien comme on en a l'habitude, soit on se laisse toucher par cette espèce d'instant de cassure qui nous appelle peut-être à autre chose. Et j'ai fait ces peintures et en fait, je me suis dit qu'il y avait certainement quelque chose d'un peu de l'autoportrait dedans, mais qu'il y avait aussi l'héroïne de désert de Leclésio. Voilà, sachant que Leclésio est un auteur que j'aime beaucoup parce que je pense que je m'y... Leclésio, c'est quelqu'un qui parle beaucoup de la vie solitaire. Et je crois que le solitaire, pour moi, est totalement ressourçant. Il y a seul, il y a l'adjectif seul, et puis il y a le mot solitude, et puis il y a l'adjectif solitaire, et puis je trouve qu'il n'y a pas le mot qui convient. Alors je dis état solitaire, mais pour moi, solitude, il y a un côté un peu sombre, triste, lourd. Et l'état solitaire, pour moi, il y a quelque chose de nourrissant, quoi. Enfin, voilà. Et Leclésio, c'est toujours... Enfin, je trouve que finalement, Leclésio, c'est toujours des personnages qui ont besoin d'aller... s'extraire un peu de la société pour aller se retrouver dans la nature. Et se construire par là, enfin, retrouver leurs racines aussi, oui.
Donc tu as choisi « Désert » de Leclésio, qui est vraiment un ouvrage captivant. C'est une histoire qui se déroule dans le Sahara. On a des personnages qui se croisent, qui se cherchent, qui luttent contre certaines traditions, qui vraiment, cette traversée du désert est presque un rituel de passage. Le passage, c'est aussi quelque chose qui te parle beaucoup. Et ce qui est intéressant dans les livres ou les extraits que tu as choisis, c'est que parfois, il me semble que l'œuvre est inspirée de la littérature ou la littérature semble dire une œuvre. Enfin, il y a plusieurs liens qui peuvent se tisser, qui sont parfois conscients, parfois inconscients. En tout cas, cet extrait du désert que tu vas nous lire est vraiment intéressant de ce point de vue-là, puisque Leclésio, c'est aussi un auteur qui va solliciter les sens. Il va décrire longtemps la nature, les odeurs, les sons,
le jour à midi.
Et on sent presque le toucher dans ce qu'il raconte. Et dans certaines de tes œuvres, c'est des choses qu'on sent également. On a ces appels au sens, au sens sensation, mais également ces appels au sens signification. Donc place à la lecture.
Je vais peut-être me mettre debout sur les lectures. Dans le ciel, il n'y a pas de fin. Rien que la brume sèche qui ondoie près de l'horizon, en brisant des reflets, en dansant comme des herbes de lumière, et la poussière ocre et rose qui vibre dans le vent froid, qui monte vers le centre du ciel. Tout cela est étrange et lointain, et pourtant cela semble familier. Lala voit devant elle, comme avec les yeux d'un autre, le grand désert où resplendit la lumière. Elle sent sur sa peau le souffle du vent du sud qui élève les nuées de sable. Elle sent sous ses pieds nus le sable brûlant des dunes. Elle sent surtout au-dessus d'elle l'immensité du ciel vide, du ciel sans ombre où brille le soleil pur. Alors pendant longtemps, elle cesse d'être elle-même. Elle devient quelqu'un d'autre, de lointain, d'oublié. Elle voit d'autres formes, des silhouettes d'enfants, des hommes, des femmes, des chevaux, des chameaux, des troupeaux de chèvres. Elle voit la forme d'une ville, un palais de pierre et d'argile, des remparts de boue d'où sortent des troupes de guerriers. Elle voit cela car ce n'est pas un rêve, mais le souvenir d'une autre mémoire dans laquelle elle est entrée sans le savoir. Elle entend le bruit des voix des hommes, les chants des femmes, la musique, et peut-être qu'elle danse elle-même en tournant sur elle-même, en frappant la terre avec le bout de ses pieds nus et ses talons, en faisant résonner les bracelets de cuivre et les lourds colliers. Puis d'un seul coup, comme dans un souffle de vent, tout cela s'en va. C'est simplement le regard d'Esser qui la quitte, qui se détourne du plateau de pierre blanche. Alors Lala retrouve son propre regard. Elle ressent à nouveau son cœur, ses poumons, sa peau. Elle perçoit chaque détail, chaque pierre, chaque cassure, chaque dessin minuscule dans la poussière. Elle retourne en arrière. Elle redescend vers le lit du torrent asséché, en faisant attention aux pierres coupantes et aux buissons d'épines. Quand elle arrive en bas, elle est très fatiguée par toute cette lumière, par le vide du vent qui ne cesse jamais. Lentement, elle marche sur les chemins de sable jusqu'à la cité, où les ombres des hommes et des femmes bougent souvent. Elle va jusqu'à l'eau de la fontaine et elle baigne son visage et ses mains, à genoux par terre, comme si elle revenait d'un long voyage.
Ce que j'aime dans ce passage aussi, c'est que, en fait, en solitaire, elle quitte le monde, mais en fait, le monde est là. Enfin, et c'est peut-être d'ailleurs pour mieux être avec le monde, mais c'est peut-être sa manière aussi d'aborder le monde, enfin, voilà, en ayant besoin de ce passage par le solitaire. Et je trouve ça très beau parce qu'il y a un côté un peu albatros là-dedans, enfin voilà, des artistes qui sont parfois assez malhabiles dans le monde et qui ont besoin de l'espace libre pour voler et puis qui dans le monde se retrouvent assez veulent. Et c'est quoi, gauche et veulent, je sais.
Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as déjà ressenti, cette traversée du désert, volontaire, involontaire, dans ta pratique d'artiste ou dans ta vie, avec une sorte de renaissance en se lavant le visage et en recevant à nouveau la lumière ?
J'ai grandi dans trois très beaux lieux, dans un très beau jardin au bord du Vercors, des murs et de pierre en Ardèche, le maquis ardéchois et la lande de l'Île-Dieu. Et j'ai beaucoup été seule dans ces lieux-là, je pense. Et je pense que c'est de là qu'est venue mon âme d'artiste, oui. Parce qu'il y a eu quelque chose de certainement de l'émerveillement. Et après, je crois qu'à partir du moment où on goûte à ce travail d'essayer de redire l'émerveillement qu'on a perçu, c'est tellement structurant, c'est tellement nourrissant qu'après, on peut plus s'arrêter. C'est pour ça que mon mémoire de fin d'études aux Arts Déco, ça appelait l'artiste comme un arbre. Voilà, des racines aux œuvres qui sont comme un don, en fait. Voilà.
Se retirer du monde est donc pour toi essentiel.
Oui, et Enfin, en tous les cas, c'est ma manière de... C'est pas un choix, c'est juste que c'est ce qui me correspond. Et je crois que même mon petit atelier à Paris, sous les toits, à sa manière, est une manière d'être un peu retirée du monde. Voilà, ce petit lieu minuscule, mais en même temps en pleine ville, et en même temps, on ne voit pas vraiment la ville. Enfin, voilà. Et mon lieu, un peu comme une cellule de moine, en fait, où... où je vais chaque matin et où je laisse faire ce qui doit se faire.
Cette notion du désert, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans l'histoire de l'art, avec des personnages comme Saint Jérôme qui vont se retirer au désert, ou des pratiques d'anachorète qui sont vraiment des retraits à la fois physiques mais aussi intérieurs. Parfois, il suffit de pouvoir se retirer en soi-même pour créer. C'est vraiment quelque chose qui, chez toi, est fondamental. Peux-tu créer partout ?
Est-ce que je peux créer partout ? Je ne sais pas, non, ça m'est arrivé de me dire qu'il y aurait des lieux où je ne pourrais pas créer, mais je crois que finalement, même dans ces lieux-là, je finis par me créer mon coin où je suis bien, qui est l'espace atelier. On finira sur l'atelier, voilà. Mais quand on parlait désert, je pensais à 16, un peu, parce que j'ai quand même un travail qui est beaucoup dans les purs. Et voilà, c'est sûrement pas sans lien avec le désert.
Alors c'est vrai que chez Le Clésio, il y a cette question du désert et des personnages qui se cherchent. Et on en arrive presque à cette notion de faille, qui est vraiment le thème hein, de cette exposition. Tu as choisi ensuite Charles Juliet pour le courage de traverser nos failles. Donc c'est vraiment un écrivain de l'intime hein, qui a exploré jusqu'au bout... Les souffrances de l'être humain, c'est quelque chose qui t'a beaucoup touché, me disais-tu. Toute cette recherche de sens, cette quête de spirituel, où tu disais que toi, un peu comme l'auteur, tu explores tes ombres, tu explores tes failles et qu'on ne peut pas trouver la lumière sans faire ce travail-là. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans la littérature. Je pense notamment évidemment à Proust, hein, qui décrit les joies intenses de l'enfance et de la beauté de l'art et qui font face à la souffrance de la perte, à la mélancolie, mais également chez des auteurs moins connus. Je pense à Goliarda Sapienza qui a écrit La joie et qui répète, hein, le personnage de Modesta répète « Comment pouvais-je le savoir si la vie ne me le disait pas ?» Et donc c'est bien la joie qui peut se cacher dans les moments les plus sombres de la vie, et c'est ça qui peut nourrir. En tout cas, toi, tu m'expliquais que traverser le désert, traverser la noirceur, aller chercher ses failles pour en revenir, c'était aussi une façon de retrouver la lumière, ce qui fait un lien aussi peut-être avec la psychanalyse, une autre de tes grandes passions. Et donc peut-être que ce travail sur la souffrance, le fait de l'écrire ou de la peindre, te permet de faire jaillir quelque chose de ses failles. Chez Charles Juliet, tu me disais aussi que tu pouvais choisir presque n'importe quel passage de ses écrits, mais tu as quand même choisi. Et cette notion de passage est très importante chez toi. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux expliquer ?
Pendant 2-3 ans, entre 2011 et 2014 à peu près, effectivement, j'ai fait un grand cycle de peinture qui s'appelait Les Passages, qui sont aussi venus par rapport au moment où j'ai donné la vie et où concrètement, j'ai senti effectivement dans la naissance qu'il y avait là aussi le passage par le goulet, quoi, enfin, et que ce passage de... cette traversée de quelque chose pour déboucher sur un ailleurs me semble effectivement une étape à laquelle on ne peut échapper, et c'est pour ça que j'ai souvent effectivement la poésie de Charles Juliet m'a beaucoup touchée, parce que toute son œuvre effectivement ne... Dans le fond, on a toujours qu'une quête. Hein. Le Clésio, je trouve qu'il y a une seule chose. Dans le fond, il y a une grande idée. Et Juliet, il y a aussi... Juliet, c'est quelqu'un qui a eu une enfance très douloureuse et qui, pendant longtemps, s'est dit, je ne peux qu'écrire un journal, en fait. Enfin, voilà. Et chose qu'il a faite, et en allant voir ses ombres. Et un jour, évidemment, au bout du creux, c'est là qu'a jailli la lumière, et une lumière qui ne le, dont il disait, elle ne me quittera plus jamais, parce que ça y est, quoi. Enfin, il avait... comme quand on touche le pied en bas de la piscine et qu'on remonte. Enfin, voilà, c'était une lumière qui ne pourrait plus jamais le... Parce que derrière tout ça, il s'était construit. Et c'est pour ça que j'aime effectivement tellement la psychanalyse et que ce serait effectivement le deuxième métier que j'aurais aimé faire. Et Juliet témoigne de ça. Dans toute son œuvre, il témoigne de ça. Et il y a des textes qui sont parfois pas faciles, audacieux. Mais voilà, il dit il faut oser descendre, quoi. Ce qui est pour moi aussi une pensée que développe Simone Paco sur un regard entre la Bible et la psychologie. Je pense par exemple au peintre Zoran Mušić, qui est aussi un peintre qui a eu une histoire très sombre, qu'il peint, et en même temps, son œuvre est d'une telle lumière. Enfin, voilà, autant qu'il est descendu, son œuvre est lumineuse. Alors, pour Juliet, c'est assez extraordinaire, parce que quand je suis allée installer l'exposition, Saïd m'a dit « Oh, regardez, il y a une vitrine au troisième étage. » Et donc, je suis tombée sur ce livre. Je lui ai dit « Mais c'est incroyable quand même. C'est Juliet, j'avais envie de le lire. » Et moi, je voulais lire « L'œil se scrute ». Et voilà, et « L'œil se scrute », il est là, en fait. Voilà. Donc, du coup, c'est un livre dédicacé à André Chédid par Charles Juliet, à partir duquel je lis.
C'est quelle page ?
105.
Merci.
Mais on a mis les références des livres sur un petit papier. Tu fais taire ce brouhaha, ces voix, ces rumeurs. Tu voiles de brume tout cela qui ne peut que dévorer l'œil. Et tu gravis la pente, tu t'établis en amont. Et là, blotti dans l'œil berceau sourd et aveugle, tu attends que te gorge le murmure de la source. Ne doute pas, ne doute plus. Va ton non-chemin en silence. Rends-toi sourd et aveugle pour mieux assurer ton pas. Et de temps à autre, fais halte en un poème où s'accomplit la convergence. Si tu n'as pas connu les nausées de l'épuisement, les heures dévastées par la soif, les nuits passées à griffer le silence, si tu n'as pas entendu la terre haleter, n'attends pas que l'œil racine te conduise à la grotte, te livre à ses eaux. N'espère pas l'extase que dispense la matrice, les mois du premier jaillissement, la félicité de voir la loi gouverner tes racines. Une percée éperdue, le corps submergé par la nuit de l'asphyxie proche, et quand l'œil s'inverse, plonge en lui-même, la lumière inonde la lumière. Tu t'amenuises, n'est plus qu'un point, un point qui se dilate, envahit les lointains, reflue en lui-même, lumière étale. Tu vas et viens entre le rien et l'immense. Et ce qui est formidable aussi, c'est qu'en fait, quand j'ai relu ces textes pour ici, en fait, j'ai trouvé le mot jaillissement, alors que j'ai des dessins qui s'appellent les jaillissements, j'ai trouvé le mot racine, visage évidemment, mais voilà, il y avait plein d'échos à mes dessins, en fait, comme s'il y avait des choses que j'entendais, puis qui restent quelque part, et puis qui ressortent dans les peintures, enfin voilà.
Il parle beaucoup de doute également. Est-ce que c'est quelque chose qui est partie intrinsèque de ton travail? Est-ce que tu ferais l'éloge du doute? Est-ce ta façon d'aborder tes créations, c'est-à-dire tu commences, tu doutes, tu t'arrêtes. Est-ce que c'est vraiment quelque chose que qui était difficile au début et que tu acceptes aujourd'hui? Est-ce que le doute, de la même façon que chez le poète, te freine, mais te porte et te nourrit également?
Oui, le doute fait vraiment partie de moi. Alors ça, le doute fait vraiment partie de mon travail. D'ailleurs, j'aime beaucoup cette phrase de Nicolas de Staël qui dit « Il n'y a que deux choses qui comptent dans l'art, la fulgurance du choix et la fulgurance de l'hésitation. » Je crois que c'est très vrai. Je crois que en dessin, on passe son temps à se dire bon ben je vais là, j'explore ce chemin, je tente cette chose, et en même temps on passe son temps à se remettre en question. Mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça finalement? Pourquoi est-ce que je fais pas légèrement différent? Pourquoi? Voilà. Et puis il y a aussi là, si je peux faire un voilà, dire deux mots d'un livre qui est là, que j'aime énormément, qui s'appelle justement Nicolas de Staël, Le vertige et la foi, de Stéphane Lambert. Et donc il parle justement, Nicolas de Staël, le vertige et la foi. Et il entend la foi dans le sens sentir très profondément que je dois faire quelque chose. Et donc je vais le faire et je mets toute ma vie là-dedans. Et en même temps le doute, quoi. Voilà, qui est là, qui est terrassant par moments, qui est...
Les poètes t'aident à porter ce fardeau du doute. Lire, c'est vraiment quelque chose qui va te...
Oui, je crois que j'ai appris à vivre avec. Je crois que ça fait partie du... Enfin, en tous les cas pour moi, ça fait partie de mon chemin, mais j'accepte.
Tu as créé une série Hommage à Charles Juliet. Une sorte de série directement inspirée de ces mots, où c'est beaucoup plus diffus, c'est-à-dire qu'il t'a tant marqué, tu retrouves ces mots dans tes dessins, et donc tu as nommé une série Hommage à Charles Juliet, où tu as vraiment cherché, parce qu'il est décédé récemment, à lui rendre un hommage posthume à travers tes créations.
Cette série-là, elle est plus ancienne, elle, là, de
elle
2012.
Est
et je l'ai rencontré, Charles Juliet, d'ailleurs. Enfin, j'ai eu l'occasion de discuter avec lui et de parler justement de ses dessins. Et voilà. Là, il n'y a pas les mots à côté, mais c'est une série de dessins, effectivement, qui est. Voilà, où il y a cette idée d'aller explorer les ombres, quoi. Voilà, enfin, par l'encre et. Qui fait suite à une autre série où il y avait des noirs devant et des grands roses derrière. Il y avait cette idée de traverser les noirs avant d'arriver à la lumière, en fait.
Alors, tu as choisi de t'intéresser à une femme complètement différente hein, des deux auteurs que nous venons de lire, Selma Meerbohn-Heisinger, qui est donc une poétesse germanophone. Qui est décédée à 18 ans. Donc c'est vraiment une... Tu parlais de fulgurance, c'est vraiment une vie fulgurante. Mais elle a quand même écrit 58 poèmes dans l'album Blütenlese, dont les thèmes sont très romantiques, font appel à la nature. On a beaucoup de mélancolie. Et lorsqu'on a discuté un petit peu en amont de cette soirée, nous avons évoqué toutes ces jeunes femmes avec des parcours très fulgurants. Donc Etty Hillzoom, que j'ai vue sur les marches de l'escalier, Anne Frank, Hélène Baird, qui a été publiée il n'y a pas si longtemps et dont les écrits sont aussi bouleversants. On a à la fois cette préfiguration. On a l'impression que l'auteur peut pressentir une échéance propre, en tout cas une urgence de vivre, mais également des textes qui sont remplis de joie. Ça, c'est assez profond et finalement une vie très dense sur une durée très très courte. C'est évidemment lié souvent à des époques qui sont dramatiques, avec une sorte d'accélération de la maturité. Mais c'est la lumière finalement qui sort très très fort de périodes sombres et de situations très noires. C'est quelque chose qu'on retrouve hein, dans ton... dans ton œuvre, et je crois que tu as choisi un extrait qui est très parlant face à ça.
Oui, alors là, en fait, je ne connaissais pas cette jeune femme non plus. Et en fait, c'est un éditeur avec lequel j'ai fait le livre qui est dans la vitrine sur un poème de Léopardi, qui, en voyant les visages que j'ai dessinés, m'a dit « Mais Marjolaine, je sors un deuxième tome des poèmes de cette jeune femme. Et est-ce que tu serais d'accord pour qu'on mette des visages dans le livre ?» Et du coup, c'est comme ça que je l'ai découverte. Oui, pour moi, c'est comme toutes ces femmes-là, comme Ethil Soum, qui est comme ma grande sœur. Enfin, j'aime énormément cette figure. Ce sont des personnes qui... donc, elle était juive et elle est décédée dans les camps de concentration. Sentant l'urgence de vivre, en fait, on fait un parcours absolument fulgurant, je trouve. À chaque fois, il y a comme une espèce d'accélération des choses qui se... une espèce de chemin de maturité qui se déploie avec une vitesse incroyable. Et là, ce poème est très beau parce que je trouve qu'il fait vraiment écho à Juliet, en fait. Et je vais vous le lire. Ça s'appelle « La tempête ». Dans ton jardin, il y a un rosier et il n'est pas encore feuillu. Et tu arrives à peine à patienter jusqu'au premier bourgeon qui, tendre et menu, annoncera une nouvelle vie. Tu attends et attends, pleine de frayeurs et de soucis. Puis un matin, il est là. Et il est si clair, si frêle et délicat, formé encore et presque inaperçu, et tu voudrais qu'il s'ouvre, qu'il ne tarde pas, car tu le sais, les tendres sont vite perdus. Mais un jour s'enfuit et un autre s'enfuit. Le ciel toujours plus bleu peu à peu s'agrandit et le bourgeon n'a pas éclos. Et tu le sais, si un gel arrive maintenant, il l'emporte sans qu'il ait pu vivre. Tu voudrais l'aider, mais tu ne sais pas comment. Tu crains toujours qu'un brusque coup de vent le livre à la mort en le faisant tomber de sa tige dans la nuit. Tu dors, tu ne peux rien pour lui et au matin il n'est plus. Et puis une nuit arrive. Tu entends hurler les vents autour de ta maison aux portes fermées. Tu te redresses, tu veux sortir pour le sauver dans le jardin. Tu crois entendre des gémissements. Enfin, tu as retrouvé le rosier, tu vérifies et tu vois. Le bourgeon s'est ouvert. Ce que toutes ces semaines le soleil n'a su faire, une seule tempête l'a accompli.
C'est à la fois la force et la vulnérabilité. Est-ce que c'est une dualité que tu ressens ?
C'est à l'occasion de parler des visages. Donc là, vous en avez vu 3-4, mais ça a été un très grand travail. D'un moment où il fallait que je change et je me suis mise devant un miroir et j'ai commencé à dessiner et en me... vidant un peu la tête à juste observer ce que je voyais, mais ça on en parlera tout à l'heure. Mais je crois que ce qu'il y a dans le visage, effectivement, c'est, j'ai été frappée par le visage en me disant, mais le visage, c'est la proue de bateau, quoi. C'est vraiment ce qui en nous fend les vagues. C'est ce qui prend de face en premier tout ce que nous vivons, quoi. Et le visage, c'est à la fois notre force, enfin, porte notre force, effectivement, et en même temps notre vulnérabilité.
Il y a une certaine gravité dans les visages, en tout cas ceux qui sont présentés à l'exposition, mais également un jaillissement de la même façon. On a l'impression qu'ils sortent, ils jaillissent du papier. Je sais que tu fais très attention à choisir la matière, tu es très attentive au choix du papier, c'est rarement anodin quand tu te mets à travailler, tu choisis ta technique, ton support, c'est pas la première chose venue, donc il y a une forme de sortie de ce visage, de la matière du papier. Est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu as ressenti en te regardant dans le miroir et en essayant de faire sortir ce que tu voyais de la feuille.
Oui, au départ, il y a eu les grands carnets, là, il y en a un dans la vitrine, qui était plus ou moins fait en une séance, enfin chaque dessin, et puis après, il y a eu les grands dessins sur grande feuille, là, où ceux-là, pour certaines fois, il y en a certains que j'ai travaillé, je ne sais pas, peut-être 15 séances de suite, pour les faire monter en intensité. Et mon seul critère, c'était de me dire... voilà, m'arrêter quand je sens qu'une présence est là, en fait. Quand je sens que là, tout d'un coup, l'espace d'un instant, j'ai eu l'impression que quelque chose trouvait le papier, qu'il y avait une présence qui était là. Mais après, il y a le doute. Donc après, on se remet à douter en se disant « mais non, voilà ».
Est-ce que c'est le doute ?
Mais il y a peut-être eu un instant où on se dit « ça y est, je m'arrête ». Et puis voilà.
Tu n'as jamais le coup de crayon en trop. Tu t'arrêtes dès que tu doutes. Tu reprends tes dessins.
Ah si, bah ceux-là, il y en a certains que j'ai repris 15 fois, ouais. Effectivement, où j'ai même l'impression ouais. qu'il y a une espèce d'accumulation des lumières, comme si tous les jours et toutes les lumières des jours venaient s'accumuler en ce dessin, mais qui à la fin porte toutes les lumières. Mais si, parce que je crois profondément une chose, c'est qu'il faut aller jusqu'au risque de tout planter. Mmh. Enfin, sinon, on ne va pas jusqu'au bout. Donc, pour amener quelque chose à son maximum, il faut... il faut prendre ce risque-là, et ça c'est Thomas Bernhard qui l'a écrit dans un livre. Voilà, il faut prendre le risque d'aller jusqu'à l'échec, et si on prend pas le risque d'aller jusqu'à l'échec, on s'arrête avant, quoi. Voilà, parce qu'on approche et tout d'un coup. Et je dis souvent ça, donc excusez-moi ceux qui m'ont déjà entendu parler de cet exemple-là, mais j'ai un souvenir du téléphérique qui arrive en haut de l'aiguille du Midi, et à la fin ça ralentit, et le téléphérique c'est très doucement le long de la falaise et ben, finir un dessin, c'est ça, c'est essayer de parfaire sans défaire, mais il faut quand même tout tenter, et ça m'arrive, hein, de planter un dessin, hein. Enfin voilà, tant pis. Hein,
mais ce n'est pas un travail qu'on voit sur les dessins que tu exposes, là on a l'impression que c'est... On n'imagine pas 15 séances à faire surgir ces visages.
Ben certains, le grand c'est à droite, là par exemple, à droite de la peinture, je ne sais pas, il faut regarder en bas, mais il y a eu beaucoup de séances. Ouais.
Belle illusion. pour rester un petit peu dans cet univers, tu as choisi Rilke, le Requiem, pour une amie qui rend hommage à Paula Modersohn-Baker, qui est donc décédée en couche en 1907, après de nombreuses grossesses infructueuses, qui était une grande amie de Rilke. C'est un poème publié peu de temps après sa mort, et le poète interroge donc les émotions, la complexité des émotions, l'existence, la connaissance de ceux qui sont partis prématurément. Il exprime évidemment son chagrin. C'est vraiment un texte sur l'amitié, sur la mémoire, sur la perte, l'absence. Et je sais que c'est des thèmes que tu explores. Et c'est aussi une forme peut-être de sagesse, peut-être de maturité. C'est-à-dire que la mort est aussi ce qui est. Et Rilke, je crois que c'est un poète qui t'a beaucoup marqué.
Là, j'ai mis là, évidemment les lettres à un jeune poète, évidemment. Et puis, il y a eu d'autres textes. Il y en a un que j'ai écrit sur le carnet du funambule, là, qui est en haut des escaliers. Ce que j'aime bien dans ce texte, c'est que finalement, il dit « Dessiner un visage, c'est comme dessiner n'importe quoi, une pomme, en fait. » Enfin, c'est je vais vous le lire. Mais oui, écoutez, j'en parlerai après. Alors seulement quand j'aurai beaucoup appris, je veux poser sur les bêtes un regard simple, afin qu'un peu de leur tournure se glisse jusque dans les articulations de mon corps. Je veux un court instant exister dans leurs yeux, qu'ils me retiennent puis me laissent aller en paix sans jugement. Je veux que les jardiniers me récitent de longues litanies de fleurs pour que dans les débris de leurs noms admirables, je rapporte un reste de leur sang parfum. Et des fruits, j'achèterai des fruits
où l'on retrouve encore le pays jusqu'au ciel. Car à cela tu t'entendais, les fruits dans leur plénitude. Tu les posais sur des coupes devant toi, tu en évaluais le poids par les couleurs. Et comme des fruits aussi, tu regardais les femmes et les enfants d'eux-mêmes, modelés par une poussée intérieure jusqu'aux formes de leur existence. Et pour finir toi-même, tu te vis comme un fruit. Tu te dépouillas de tes vêtements, tu allas te placer devant le miroir et tu t'y enfonças jusqu'à y perdre le regard. Lequel, gardant courage, s'abstint de dire « c'est moi ». Non, ceci est.
Voilà, j'ai bien aimé ce « ceci est ». Et ce travail sur les visages, ça m'a un peu vidé la tête. J'avais l'impression que j'arrivais à l'atelier sans me poser la moindre question. Je me mettais juste devant le miroir et je devais, devant le visage, oui, et observer. Voilà, observer. Et juste me concentrer sur des riens, sur des noirs et des blancs, sur des vibrations, sur le grain du papier. Voilà.
C'est très proche de ce qu'a fait Paula Modersohn Baker, qui s'est peint à plusieurs reprises, notamment enceinte, les mains sur le ventre, et qui a vraiment, qui avec une grande acuité, voire un esprit très critique, s'est dépouillé littéralement en se peignant. C'est un peu la démarche finalement que tu faisais dans cette période-là.
Oui, et surtout, c'est en tout ce qu'on dessine, essayer de mettre l'âme des choses, quoi. Enfin, c'est pour ça que je fais jamais un dessin en croquis, en fait. Enfin, tout dessin pour moi est une recherche que j'essaie de mener jusqu'au bout. Alors, 99 fois sur 100, ça ne mène à rien. Et encore, enfin voilà, même. De 1%, après on doute, et voilà. Mais en tous les cas, voilà, moi, chaque dessin, j'essaie d'aller jusqu'au bout du bout de ce que je peux lui donner. Voilà, il y a cette très belle phrase de Saint John Perse que j'ai mis là-haut aussi, qui dit... À un moment, il dit « Le réel dans le poème semble s'informer lui-même. » Voilà, comme si la rose découvrait qui elle était par le dessin. Enfin, je trouve ça très beau, comme si on avait... Un jour, c'est une anecdote, mais je me suis retrouvée dans un concert et il y avait quelqu'un qui jouait du violon et je me suis dit « Mais est-ce que je la connais, cette fille ? Il me semble que je la connais. » Mais je n'étais pas sûre. Il se trouve que et en fait, je l'avais dessinée. Et tout d'un coup, je me suis rappelée de mes dessins. Et me rappelant de mes dessins, je me suis dit, mais oui, c'est elle. Elle a les yeux qu'il y avait sur mes dessins. En fait, c'est mes dessins qui m'ont de mémoire qui m'ont confortée en me disant, mais oui, c'est bien elle. Parce que je crois que dans mes dessins, il y avait vraiment quelque chose d'elle qui fait que là, tout d'un coup, je la reconnaissais vraiment. J'étais sûre que c'était elle. C'est marrant.
C'est amusant. Finalement, les catégories traditionnelles de l'histoire de l'art, du croquis, dessin préparatoire, mise au carreau, c'est absolument pas ta façon de travailler, même si j'imagine que tu as dû recevoir cet enseignement aux arts décoratifs, certainement.
Non, parce que le dessin, pour moi, c'est mon... c'est là où je mène l'œuvre, en fait. Pour moi, voilà, c'est beaucoup dans le dessin, ailleurs aussi, un peu dans la peinture, etc., mais beaucoup dans le dessin, mais parce que je crois qu'il y a, quelque chose de la fragilité du papier qui me correspond aussi dans ce... D'abord, il y a quelque chose que j'aime dans le papier, par la matière, par etc. Je trouve qu'il est très unique au papier. Et puis il y a aussi quelque chose de la fragilité du papier, quoi. De faire ces choses, de faire ces dessins en pastel qui dans le fond sont hyper compliqués à montrer parce que dans le fond c'est très fragile. Mais c'est pas grave, tant pis. Dans le fond, je l'ai fait, j'y pense pas. Enfin. Ouais.
L'obsolescence n'est pas ta réflexion. Tu crées sur des matières qui te parlent à toi.
Bah oui. Et qui porte cette fragilité, mais c'est pas grave, parce que c'est celle-là que je défends aussi.
Alors ensuite, tu as choisi Xavier Morel, qui est donc
qui est
ici
là.
Ce soir. Oui, voilà. Marjolaine a participé à votre nuit de la poésie, si je ne me trompe pas, comment ça s'appelle ?
Alors, il y a eu une nuit de la poésie à Genève, il y a un an et demi. Voilà, au moins à 4h du matin, j'ai lu un magnifique poème d'Octavio Paz. Xavier a lu un poème qui m'a frappée, sur lequel j'ai dessiné. Les dessins ne sont pas ici. Mais... Et après, en retour, Xavier est venu à l'atelier et a vu tous ses dessins. Enfin, voilà, beaucoup les pastels et beaucoup les visages. Et Xavier a écrit ce poème qui s'appelle « Persée s'adresse à Andromède ».
Pouvez-vous nous en dire plus ?
Je le lis ou je parle ?
Non, parle un peu d'abord.
Après cette rencontre à Genève et les premiers dessins que Marjolaine avait fait sur le petit poème que j'avais lu là-bas, effectivement, j'ai découvert davantage son travail. Et à l'occasion d'une petite exposition qui se passait chez Barbara Pola, galeriste de Genève, mais qui a aussi un petit lieu à Paris, il a été décidé que je lirais un autre poème et que je l'écrirais pour l'occasion. Quand on est comme ça confronté à une circonstance d'écriture, parfois on cherche aussi d'autres émotions qui viennent d'ailleurs et qui peuvent se conjoindre. Et par une forme d'association libre, comme on parlait de psychanalyse tout à l'heure, j'ai repensé à un thème sur lequel j'avais envie de travailler depuis longtemps, qui était la figure d'Andromède, qui est une figure mythologique. Très 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 rapidement, pour résumer son histoire, c'est une jeune fille qui est frappée, dont l'oracle dit qu'elle doit être sacrifiée pour sauver son royaume, qui est menacé par un monstre marin suite à une histoire comme dans l'histoire d'Hélène et de la guerre de Troie, de rivalité, de beauté entre les mortels et les Néréides en l'occurrence. Bref, j'avais cette figure qui me trottait en tête depuis assez longtemps et en repensant à cette figure, je suis tombé sur en découvrant le travail de Marjolaine, cette verticalité. Souvent, enfin, alors, en l'occurrence, il y a des choses très différentes ici. À ce moment-là, moi, j'ai surtout beaucoup vu un peu les visages qui étaient déjà là, mais beaucoup les grands pastels avec ce travail de transparence, d'apparition, d'apparition, disparition, etc. Et ça m'a aussi évoqué, toujours autour de la figure d'Andromède, un tableau de Rembrandt, pas du tout pour le rapprocher picturalement du travail de Marjolaine, mais comme ça, comme support de rêverie quand je commençais à écrire. Sur ce tableau de Rembrandt, il y a donc la figure d'Andromède qui est elle-même très verticale et qui se détache sur un fond bicolore. Alors évidemment, c'est une manière tout autre. Mais voilà, les choses se sont un peu rencontrées comme ça dans mon esprit. Et j'ai écrit ce poème où j'ai aussi essayé d'attraper des motifs du travail de Marjolaine et puis de me les réapproprier ou de leur chercher, non pas un sens du tout, parce que c'est pas trop mon truc, mais des échos, de créer dans le langage, puisque après tout c'est ça un poème, quelque chose qui, à mes yeux, faisait écho au travail de Marjolaine et à tout ce dont je viens de parler. Voilà. Et comme par hasard, d'ailleurs, ce texte a pris la forme d'une suite de questions, d'interrogations, qui est aussi bien une des interrogations que j'adresse, pas à Marjolaine en tant que personne, mais disons à l'artiste, à l'œuvre, je m'adresse à moi-même aussi, pourquoi pas, bref, fin de l'introduction. Donc Persée s'adresse à Andromède. Es-tu visage enclavé dans la roche, yeux sans pupilles, mains effacées, naissance du pli de laine, es-tu pour jamais cela que nul n'aura sauvé? Ou bien es-tu l'attente insatiable, oublieuse, d'un qui est déjà venu? Es-tu basse continue qui vibre dans le ventre et traverse tout âge? Es-tu corps cicatrice ou enfant silhouette? Es-tu couleur gémissant que vert et noir sont indiscernables? Es-tu papier, linon, percaline maculée, fusant comme une gorge vers la pointe ou la gouge pour être déchirée? Es-tu doigt sur le tissé ou tissé cherchant le doigt? Es-tu rideau de moindre azur sur un effiloché de pierre opaque? Es-tu danseuse, rampant le long de l'air jusqu'à son dernier corps, funambule au cœur lourd, vide et non vide sur les quatre horizons? Es-tu davantage qu'une haleine fuligineuse, moussant aux veinées de ta peau? Es-tu pareil à l'or fondu, sécrété à l'entrecuisse par les anges? Es-tu bulle fécondée entre vitrail et plomb? Es-tu fluide coagulé, stase fulgurée dans l'entaillure? Es-tu une tête, arme de fin recours, qui stupéfie par un venin de l'âme et que chacun, comme nous tous, cache dans les plis de sa mante? Es-tu chevelure, avalanche, algue précipitée en corail charbonneux? Es-tu, au droit de la pensée, houppe, aigrette, pompon, qui s'érige ou pendouille? Es-tu maison peut-être, condamnée et qui n'est plus que sa propre demeure? Ou seulement une fenêtre fantôme, oubliée, ressurgit sur la façade aveugle? Es-tu neige rouge, quand dans le ciel givré les oiseaux volent sur le dos? Es-tu capillaire ruisselant par la paroi poreuse depuis les sources de l'Éros? Es-tu Éros lui-même, enfant de pénurie, guettant dans l'anfractuosité le passage de la jeunesse ou de la mort? Es-tu la cataracte des étoiles? Tu es beauté maudite d'avoir été beauté. Es-tu donc prosodie ou brouillard? Tu es bruyère, tu es dactyle, tu es scansion de la nature et du langage. Tu es la flamme rose venue d'un autre gouffre et qui brûle en secret dans l'épaisseur d'une lumière éteinte.
Merci. Magnifique. En marjolaine, tu... Tu nous disais que ce texte disait merveilleusement tes dessins. En quoi ce texte parle véritablement de ton art?
Je crois que c'est difficile d'en parler de ce texte parce que, enfin, d'abord, j'ai l'impression qu'effectivement, à la fois les dessins le disent et il dit les dessins. Enfin, voilà. Voilà, le texte met aussi le doigt, je crois, sur la faille dans toutes les formes qu'elle peut avoir, sur la faille corps féminin, symbole originel du corps féminin, sur la faille cicatrice, sur la faille blessure, sur la faille brèche sur le spirituel, qui est aussi beaucoup dans mon travail. Et je crois qu'il y a beaucoup de ça aussi dans mes dessins, c'est-à-dire plusieurs manières de les voir souvent. C'est-à-dire que par exemple là, il y a une racine, mais ça pourrait être un poumon. Certains y voient le poumon, la feuille. Là, il y a le dessin du funambule. Il y a des dessins du funambule, mais est-ce que c'est le funambule? Est-ce que c'est l'ange? Ou est-ce que c'est la croix? Quelquefois, on est dans l'infiniment petit, mais on pourrait être dans l'infiniment grand. Je crois que j'aime, moi, garder ce mystère. En fait, je m'ennuie quand un dessin est trop dit. J'aime être sur ces ouvertures qui peut-être aussi se font par le doute qui est en moi, qui fait que même moi-même, j'hésite, je suis un peu entre deux, je suis sur quelque chose, puis ça se transforme en autre chose. Et puis donc, il y a effectivement cette question de la fente, la faille, la mandorve... la mandorle, voilà, donc cette forme-là, voilà, donc je crois que ce texte dit aussi ce qui me dépasse un peu d'ailleurs sur ce sujet de Oui, de quelque chose de... je trouve qu'il y a quelque chose de l'intouché au début et après d'une blessure, effectivement, qui est abordée là, magnifiquement. Ouais.
Le texte mentionne des couleurs très vives, très fortes. On a du rouge, on entend parler de rouge. Toi, tu as commencé par la gravure, plutôt en noir et blanc, et puis la couleur est venue. Et tu es aujourd'hui une très grande coloriste, tu n'as pas peur de la couleur, tu fais jaillir véritablement de tes dessins des teintes très fortes, dans des bleus-verts très forts. Comment es-tu arrivée à la couleur ? Je pense que toi, tu fais pas cette délimitation entre les peintres de la couleur et les tenants de la ligne. Comment as-tu fait cette transition,
enfin, ça s'est peut-être fait... Oui, ça s'est fait très en douceur, en fait. Enfin, quand je suis arrivée à la Casa Velázquez en 2003, je me suis dit, oh là là, j'ai un atelier extraordinaire, je vais peindre, j'allais m'acheter des pigments, etc. J'ai fait des choses, c'était une catastrophe.
Tu as gardé ta pointe sèche.
Et voilà, et... Non, et en fait, donc j'ai à nouveau tout rerangé, ça n'allait pas du tout, etc. Et puis finalement, la couleur est arrivée très doucement par des petites touches de pastel dans mes carnets. Et puis finalement, après, elle a pris toute la page, d'abord à l'encre. Et puis après, j'ai eu envie d'huile pour pouvoir vraiment plus superposer des couleurs, etc. Mais c'était encore sur papier. Et puis, ce n'était pas le support idéal. Et puis alors, du coup, je me suis mis à en faire sur peinture. Et puis... et puis après, je pense que c'est le moment où j'ai eu des enfants, où à ce moment-là, j'ai eu besoin de revenir à des techniques rapides, parce que j'avais peut-être moins de temps, donc de pouvoir poser la couleur rapidement. Donc c'est le moment où il y a eu les encres avec Juliet, là. Et puis là, maintenant, il y a le pastel, voilà, qui me... très particulier, que je frotte beaucoup, j'en ai plein les mains, ou... Dans tout ça, il y a quand même toujours aussi la ligne, enfin la ligne, oui, la ligne par le trait, justement, de toujours d'un trait qui était déjà le trait de gravure que je travaillais avec. Il y a cette incision de la gouge qui crée des copeaux autour, qui crée un trait un peu qu'on appelle charbonneux en gravure, et de ce trait que j'ai gardé un peu partout d'ailleurs, et au pastel, ou quelquefois quand j'ai besoin de venir remettre de la netteté, quelque chose d'aigu, parce que le pastel c'est quand même le monde du flou, je reprends ma gouge et je marque le papier d'un sillon, et du coup le pastel vient se mettre dans le sillon et vient faire réapparaître une ligne. Et même en vitrail récemment, où j'ai eu cette opportunité de faire un vitrail où j'ai travaillé aussi là, une espèce de dégradé pour que la lumière sourde du trait. Donc voilà comment est venue la couleur petit à petit. Et oui, il y a ces couleurs très très fortes qui reviennent régulièrement. Il y a les gris bleus, les gris verts de fond, il y a les bleus, il y a les roses, il y a les ocres, et voilà.
C'est vraiment quelque chose qu'on entend dans ce texte, la couleur. C'est des termes qui en parlent. C'est un peu comme une trouée, cette couleur, dans tes dessins. Elle sort. On en revient au jaillissement et presque à la lumière. C'est souvent plutôt une couleur chaude qui sort de tes dessins.
Oui, je pense qu'il y a les...
Plutôt qu'un trait noir dans un dessin très lumineux. Mais peut-être... Peut-être travailles-tu aussi l'inverse, hein. Peut-être le trait sombre, la faille sombre dans la lumière également. Mais en tout cas, dans cette exposition, c'est...
Oui, il y a les roses qui sont beaucoup là, qui sont... je ne sais pas trop quel est mon... Enfin, il y a quelque chose chez moi, effectivement, avec les roses qui me tient depuis des années, qui est une couleur très décriée, effectivement. Et moi, finalement, je ne sais pas, je l'emploie souvent. Et elle est là, et souvent, elle est là pour montrer un endroit précis dans le dessin, qui est le cœur du dessin, je crois, et voilà. Mais il y a quelque chose d'ambigu dans les roses. C'est, enfin, effectivement, c'est la vie, c'est les roses,
Et on l'associe au féminin de façon presque arbitraire aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas dans l'histoire de l'art.
Oui, je crois.
Le rose, évidemment, c'était le rose pourpre, c'est les couleurs du pouvoir. Et quand on regarde les peintures de la Renaissance, on a des drapés roses, et c'est pas sur les femmes. Ces roses très vives qui sont presque des roses maniéristes, en fait.
Oui,
ouais. Très audacieux, finalement.
Qui sont des espèces de magenta, marchand de pastel, ils appellent ça magenta violet.
Enfin. Et c'est un peu la couleur mal aimée, effectivement.
Ouais. Oui. Oui. Mais moi, elle me colle à la peau, effectivement. Enfin, voilà.
Merci beaucoup. Je crois que tu...
On termine sur Sylvie Germain.
Voilà, que tu as choisi un dernier... merci beaucoup. Un dernier texte qui aborde la joie. Donc, on en revient à la joie. On a parlé de mélancolie. Il n'y a peut-être pas de joie sans des traversées mélancoliques. La joie de se trouver par le travail. Et voilà, tu as choisi un extrait d'un ouvrage.
Assez inconnu de Sylvie Germain.
Et je ne saurais pas prononcer le titre. Par conséquent, je vais te laisser le dire.
C'est un livre qui parle d'un graveur tchèque qui s'appelle Bojislav Hrenek. Donc ça s'appelle Bojislav Hrenek à Petrkov, parce que c'est le lieu où il a vécu, en fait. Et c'est une collection de livres sur des lieux. Et donc il y a un chapitre sur l'atelier. Et voilà, je voulais vraiment finir là-dessus, sur l'immense bonheur de créer, quoi. Enfin voilà, de tirer son fil, et vraiment, ce qui est une très très grande joie. L'artiste n'a pas à se préoccuper des symboles, des signes précis à décrypter dans l'œuvre qu'il crée. Celle-ci naît après une germination plus ou moins longue et confuse à fleur de sa conscience, dans les méandres de son imagination et dans le clair-obscur de sa mémoire. Elle naît, inattendue bien que longtemps portée, couvée, et insolite alors même qu'elle a été mûrie, préparée, travaillée. Un jour, un soir, l'œuvre est là, modeste ou splendide, cela importe peu. Elle paraît comme un papillon qui se pose à l'improviste, paraît d'une beauté dont on ne se reconnaît pas l'auteur et qui déconcerte. Mais ce qui est sûr, c'est que ce papillon ne serait jamais venu s'il n'avait été attiré par notre veilleuse. Non, l'œuvre jamais ne surgirait si elle n'avait été appelée par notre désir, fécondée par notre attention et notre méditation, attirée par notre veille. Et cela nécessite que l'on s'entretienne longuement avec soi-même, que l'on considère son intérieur, comme dit Descartes, que l'on s'aventure dans les vastes géographies de sa sensibilité, de sa pensée, et que l'on explore méticuleusement les paysages étendus là au fond de soi. Et pour pouvoir accomplir cette descente au plus profond de soi, pour progresser dans cette aventure intérieure, la maison s'avère nécessaire. Elle est à la fois le socle où l'on prend assise, la cellule où on se recueille, et le lieu sûr à partir duquel on peut se mettre en chemin vers l'encore inespéré, l'encore inimaginé. Elle est plus que le cadre à effectuer, elle en est une condition essentielle, comme le remarque Lévinas. Le rôle privilégié de la maison ne consiste pas à être la fin de l'activité humaine, mais à en être la condition, et dans ce sens le commencement. Le travail, dès lors, arrachera les choses aux éléments et ainsi découvrira le monde. Cette saisie originelle, cette emprise du travail qui suscite les choses et transforme la nature en monde, suppose, tout comme la contemplation du regard, le recueillement du moi dans sa demeure. Ce sont ceux qui ne sont pas du monde qui, en fait, connaissent le mieux celui-ci, car le regard qu'il pose a sur lui la longue portée, l'acuité et la vivacité que confère une juste et lumineuse mise à distance. Certes, leur vue peut se troubler, leurs repères parfois s'égarer, et même la nuit souvent les attend en chemin pour les mettre à l'épreuve, mais ils n'en demeurent pas moins des envoyés, des messagers.
des funambules marchant sans répit sur un fil en zigzag, épineux, lancé entre ce monde et sa source, si lointaine, si proche.
La maison comme un cocon, un écrin, l'atelier finalement. Pour toi, c'est essentiel d'avoir un lieu à toi ?
Essentiel, oui. Voilà, je crois qu'on fait la boucle avec le début, avec le solitaire, enfin, voilà, le besoin de prendre du recul, tout ce qu'il dit là. La juste et lumineuse mise à distance, enfin voilà, qui donne acuité, longue portée, vivacité. Enfin, voilà, et je crois que l'atelier, c'est ça, effectivement, c'est ce lieu de silence, la cellule de moine, comme je disais, où on laisse venir, quoi, on dirige de moins en moins ce qui se passe, et puis on voit ce qui se passe, et enfin voilà, on laisse faire. Enfin, et puis j'aime bien parce que, voilà, il y a ce mot de funambule qui est apparu là, et. Alors que j'ai des dessins dans un carnet, parce que je me sens quelquefois comme un funambule sur son fil. Et donc, je trouvais ça merveilleux qu'elle parle de ça, enfin, voilà, de chercher sa ligne, voilà, de chercher à poser les pas comme ça sur sa ligne.
Mmh. La cellule, c'est un mot, effectivement, qui est très fort, parce que ça pourrait être une cellule à la fois physique, mais également intérieure. La cellule, c'est la mise en retrait. Chez les artistes, c'est pas du tout quelque chose qui est perçu comme négatif. On voit le travail de Fra Angelico au couvent di San Marco à Florence. Il a vraiment fait des merveilles dans des cellules très épurées et qui ont gardé un aspect très épuré malgré les fresques magnifiques. Donc j'imagine que ton petit atelier est une cellule.
Je crois, c'est ce qu'on m'en dit.
Y a-t-il la place d'y installer un petit matelas ? Je suis pas certaine.
Pas vraiment. Mais oui, c'est très moi, mon atelier. Mmh. Voilà, c'est vraiment mon espace. Ouais.
Oui. Dans lequel tu peux travailler à la fois des petits formats.
Bah, et des grands, quand même. Ceux-là, ils ont quand même été faits dans mon atelier. Oui. Avec.
Oui. Bien, écoute, Marjolaine, merci beaucoup.
Merci à toi. Merci beaucoup.